France Inter. Le 7-9.
Il est 7h47, le débat éco du vendredi avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Bonjour messieurs.
Bonjour.
On va évidemment parler messieurs ce matin de la flambée des prix de l'énergie qui concerne le gaz bien sûr, mais aussi les carburants et l'électricité. Après le chèque énergie destiné à 6 millions de Français les plus modestes, Jean Castex a annoncé hier le gel des tarifs réglementés du gaz jusqu'au printemps prochain et la hausse des prix de l'électricité sera plafonnée à 4% via une forte baisse des taxes. On va voir ce que vous en pensez de ces mesures dans une minute. Mais d'abord, pour nos auditeurs, et vous allez commencer Thomas, quelles explications peut-on donner sur cette incroyable flambée des prix ?
Alors d'abord, oui, incroyable, c'est-à-dire qu'elle est très forte. Depuis le début de l'année, les prix de marché du gaz ont plus que doublé, sur certains marchés ont triplé. Le tarif réglementé, qui concerne un certain nombre de Français, a augmenté de 57% depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'il y a la hausse de 13%, 12,6% au 1er octobre, mais il y avait eu des hausses en juillet, il y avait des hausses en avril, donc on est au total à plus 57% sur l'année. Donc quand le gouvernement dit on va geler, mais c'est gelé à partir de novembre. Donc la hausse, elle a déjà eu lieu et on ne revient pas dessus. Alors pourquoi ? On évoque quand même plutôt les facteurs conjoncturels liés à la reprise, liés au fait qu'il y a des productions en Norvège pour des raisons techniques qui sont arrêtées. Après, il y a quand même la question à long terme. C'est-à-dire qu'on, là, on n'est pas encore remonté, que ce soit sur les prix du gaz ou les prix du pétrole, on n'est pas encore remonté au sommet de 2008-2009. Vous vous souvenez où le prix du baril le dépassait $150. Le prix du gaz avait aussi atteint des sommets historiques. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ça a déclenché une nouvelle vague de production de gaz de schiste, de pétrole non conventionnel, des trucs très polluants qu'il faudrait mieux laisser dans le sol. D'ailleurs, mais que ça a d'un seul coup rendu rentable. Ensuite, les prix ont baissé suite à cette nouvelle offre. Là, ça remonte. La vérité, c'est que on devrait pas laisser le marché décider de ces hausses gigantesques. Ça devrait, dans une politique climatique bien pensée, on devrait fixer un sentier d'évolution de ce prix et ensuite absorber les chocs de marché parce que ça n'a pas de sens d'avoir des variations aussi rapides à la hausse, à la baisse en permanence.
Dominique, même question, pourquoi cette flambée ?
Alors je vais reprendre les éléments que je suis d'accord que vient d'évoquer Thomas. Le point qui me semble important quand on regarde les causes de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est volatile et ça va rester volatile. C'est-à-dire que quand vous avez de la substitution d'énergie de base, d'énergie renouvelable des énergies de base, ça introduit un facteur de volatilité que nous ne connaissions pas jusqu'à maintenant. Quand on regarde les causes, vous avez évidemment les causes qui sont, j'allais dire, classiques. Une reprise économique mondiale qui est
donc une
phénoménale,
demande.
Une demande qui est considérable, par un effet simplement de « on était en bas, on remonte », ça c'est un phénomène, disons, classique. Mais vous avez aussi l'absence de vent, notamment sur l'est du continent européen. Bon, ben c'est parce qu'il y a des éoliennes.
Voilà.
Ça n'existait pas avant.
Pas de,
c'est aussi parce que un facteur qui est souvent sous-estimé, mais qui compte beaucoup sur le marché, c'est que la Chine importe énormément de gaz naturel liquéfié, notamment des États-Unis. Et pourquoi ils importent du gaz naturel liquéfié, c'est parce que ils essayent de substituer gaz au charbon. Et donc, c'est un élément qui est positif, j'allais dire, c'est presque pour la bonne cause. Donc, il faudrait presque s'en réjouir.
Alors,
et
voilà.
Puis, vous avez aussi la Norvège et l'aspect géopolitique qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est naturellement Vladimir Poutine qui attend que le fameux gazoduc Nord Stream 2 entre en fonction après le 1 et il met un petit peu de pression, les experts se divisant pour savoir si il a des problèmes techniques ou s'il fait exprès d'ouvrir et de fermer le robinet pour montrer qui est le patron.
On vous a entendu, il y a des injonctions contradictoires, climat, énergie.
Mais ça va rester volatile, il ne faut pas se faire d'illusions.
On traite les injonctions contradictoires après un mot sur ce que le gouvernement met sur la table, Thomas Piketty. Jean Castex, hier soir à la télévision, en urgence, est-ce suffisant, insuffisant votre analyse ?
À nouveau, la grosse hausse des prix du gaz, elle a déjà eu lieu, elle est de plus 57% sur le tarif réglementé et pour certaines personnes qui ont des tarifs de marché, elle a pu être parfois encore plus élevée. Donc on gèle, mais sauf qu'on gèle après que la hausse a eu lieu, alors qu'on aurait pu s'en rendre compte plus tôt.
Qu'il elle avait va durer cette plusieurs hausse. Mois la hausse, a dit Bruno Le Maire.
Donc,
ça concerne la moitié des ménages, 5 millions.
Oui. Non, attendez, 5 millions, ça fait beaucoup moins que la moitié. Non, ça concerne, il y a beaucoup de gens qui sont sur les tarifs de marché qui ont plus de hausse. Le chèque énergie, il faut avoir en tête que c'est réservé uniquement aux ménages qui ont un revenu fiscal inférieur à 900 euros par mois par personne. Et quand vous êtes, disons, juste entre 500 et 900 euros, vous êtes considéré comme un trop riche et donc vous avez un tout petit chèque. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est très restrictif comme mesure. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que ce qu'on paye aujourd'hui, c'est l'échec d'une politique qui aurait dû bien davantage au cours des dernières années, mais pas seulement ce gouvernement, aussi le précédent, au cours des 10 dernières années, aurait dû réduire nos besoins en gaz, en particulier pour le chauffage, si on avait eu une politique d'isolation beaucoup plus réussie. Et là, je veux insister sur le fait que les cibles officielles sur le nombre de rénovations de logements auraient dû faire que depuis 10 ans, on devait avoir 5 millions de logements, les passoires thermiques les moins bien équipées, qui auraient dû être rénovées. Les derniers chiffres qui ont été publiés, c'est que sur les 10 dernières années, on en a eu 700 000. Donc, 7 fois moins, on en a eu moins de 70 000 par an, alors qu'on devait en avoir 500 000 par an. Et ça pose vraiment une question sur cette politique. Parce que ça, on aurait réduit les besoins en gaz. Si vous voulez, c'est bien après d'arriver après coup, de faire des mesures d'échec énergie. Mais déjà, pour commencer, il y a vraiment un échec collectif. D'où vient-il? Alors, les primes ont été insuffisantes, mais derrière, il y a aussi des problèmes juridiques, politiques, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut que ça devienne une obligation. C'est-à-dire, le problème, c'est que tant qu'on laisse les propriétaires, les copropriétés décider si oui ou non on s'isole, je pense que ça doit être financé de façon publique, en particulier pour les propriétaires les plus modestes, intégralement et en grande partie pour les autres. Mais il faut contraindre. Oui, là, il y a un moment, il faut contraindre. C'est-à-dire que le signal de marché, le signal prix, tout ça, c'est bien joli, mais là, on pourrait avoir réduit depuis 10 ans. Et donc maintenant, il faut le faire, enfin.
Ça, c'est le moyen long terme. À très court terme, Dominique, est-ce que le gouvernement en fait assez? Sur ce point-là aussi, évidemment.
Sur le moyen long terme, je suis assez d'accord avec Thomas Piketty, c'est-à-dire que je crois que c'est 2028, une obligation qui entre en vigueur pour les logements. C'est très très tard, en réalité. Et le débat parlementaire avait montré que le gouvernement était parti sur une date bien plus avancée, plus proche de nous, et en fait, il a reculé petit à petit. Et donc, je pense que alors, le terrain, beaucoup de temps a été perdu sur la rénovation des logements. Là, c'est en train manifestement de se faire. Si j'ai bien regardé les chiffres, on en est en quelques mois, à 800 000 primes rénovent d'ici, sur l'ensemble de l'année 2020-2021.
Il ne va pas y avoir 800 000 logements rénovés là cette année.
La prime rénov est en train d'accélérer.
Et sur le 800 000, c'est considérable. Et sur le très court terme, Jean-Luc Mélenchon a proposé de bloquer les prix des énergies, du gaz notamment. Comme il l'a dit, comme on a bloqué les prix du gel hydroalcoolique pendant la phase aiguë.
Sauf que ça a déjà augmenté de 57%, Nicolas. Donc là, il faudrait revenir en arrière. Il aurait fallu s'y prendre un peu plus tôt dans l'année. C'est-à-dire que là, toute la hausse, elle a déjà eu lieu.
Dominique,
oui, en fait, ça n'est pas la première fois qu'il y a un blocage, puisque le blocage avait déjà lieu après les Gilets jaunes. Donc on est dans la seconde phase de blocage. C'est un vrai faux blocage, mais un blocage quand même. C'est-à-dire que vous avez blocage pendant 7 mois jusqu'au printemps, et la baisse qu'on peut attendre au printemps sur les marchés mondiaux, le prix du gaz, parce que au printemps, on consomme moins dans les pays occidentaux, cette baisse sera plus faible que prévu, donc il y a une sorte de lissage. Donc c'est ça le suivi. Mais, vous dites, effectivement, les prix du gaz ont déjà augmenté de 57% depuis le début de l'année. D'abord, deux choses. La première, c'est que ils avaient beaucoup augmenté entre 2018 et 2020. Donc on n'est pas non plus, on n'est pas à des records absolument historiques. C'est des, il y a des bosses, il y a des allers-retours.
Partait déjà de haut.
Et la seconde chose, et c'est la question fondamentale, est-ce qu'il faut quand même, à un moment ou à un autre, accepter que les prix de l'énergie augmentent? On peut pas dire matin, midi et soir, il faut des signaux prix. Et c'est une taxe carbone qui doit entrer en vigueur, il faut que les consommateurs changent, et dès que ça augmente, eh bien tout le monde est affolé. Donc il y a une tartufferie absolument phénoménale.
Injonction contradictoire.
C'est une tartufferie. Il faut que les prix augmentent, à l'exception pour les moins aisés. Oui. Alors c'est le premier décile, deuxième décile, et je vois que le chèque énergie, il est quand même de 150 plus 100. C'est-à-dire on est à 250 par an.
Thomas Piketty.
Pour vraiment les plus pauvres.
Thomas Piketty, il faut que les prix augmentent.
20%. Non, attendez. Alors donc,
non mais reprenons dans sur l'augmentation. Est-ce que nous avons jusqu'à 8h30
J'aimerais juste qu'on débatte de ce que vient de dire Dominique. Il faut que les prix augmentent. Alors, il faut que ce soit une décision. Même.
Oui et non. C'est-à-dire, la première chose, c'est le plus important, c'est quand même les normes de construction. C'est-à-dire, vous savez, les signaux prix, c'est très bien, mais il y a des choses. Par exemple, il y a des gisements de pétrole, de gaz. il faut juste les laisser dans le sol. Il faut arrêter de les extraire. Là, le fait qu'on n'ait pas rénové comme il fallait, c'est ça qui augmente les besoins. Donc ça, c'est le premier point. Alors ensuite, sur le signal prix, la première chose, c'est que le signal prix, ça doit être une politique assumée qui dessine un sentier éventuellement d'augmentation des prix et qui ne se soumette pas comme ça à des injonctions du marché qui montent de 60% une année, qui baissent de 60% une autre année. Donc ça, il y a un
donc
manque.
Donc c'est donner y a un sens de à l'augmentation, c'est ça.
Oui, mais
dire voilà pourquoi nous augmentons, oui, c'est pour aller vers là.
Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que là, sur l'année 2021, on n'aurait pas dû laisser faire cette augmentation là de 57%, parce que si on veut un prix du carbone qui augmente régulièrement, ça n'aurait pas été de 57% sur une année, ça aurait été une augmentation annuelle beaucoup plus limitée. C'est le premier point. Le deuxième point.
On ne peut pas toujours vouloir réduire à zéro qui ait aucune conséquence des décisions.
Non, mais d'accord, mais là, plus 57% sur un an, ça n'a pas de sens.
Okay. Le deuxième
point, c'est quand même que une des grandes leçons de ce quinquennat avec la crise des gilets jaunes dans le début de période, c'est qu'on n'y arrivera pas si on traite tout le monde de la même façon. C'est-à-dire avoir une augmentation générale des prix qui traite tout le monde de la même façon. Alors, Dominique dit, oui, on fait des chèques énergie sur 5 millions de foyers. D'accord, mais 5 millions de foyers sur 38 millions de foyers en France, vous savez, ça fait 15% des personnes. Alors, ce sont les plus modestes, ce sont des chèques qui sont très limités en montant, mais ça veut dire que dès que vous êtes au-delà, je le disais tout à l'heure, de 900 euros par mois, vous n'avez rien du tout. Donc moi, je pense qu'il faudrait penser de façon générale à un modèle qui traite de façon différente les consommations raisonnables et les consommations très élevées. Je veux redire un chiffre qui est très important, c'est que les 50% des Français les plus pauvres, donc pas simplement les 15%, les 50% des Français les plus pauvres, aujourd'hui sont à environ 4 tonnes d'émissions carbone dans l'année, c'est-à-dire ils sont déjà dans les clous par rapport à 2030. Par contre, les 10% les plus riches sont à plus de 20 tonnes par personne. Donc si on traite tout le monde de la même façon et qu'on veut ratiboiser tout le monde, alors qu'on part d'une situation qui, vous voyez, est complètement disparate en termes de responsabilité face au climat, on ne va pas y arriver.
Je serai explosif. Dominique,
deux éléments. Le premier, c'est sur le pouvoir d'achat. On peut pas à la fois, et je le redis, on peut pas à la fois dire il faut qu'il n'y ait aucune conséquence sur les prix des choses, des choix écologiques que nous faisons. Je note quand même parce que sur le pouvoir d'achat, vous avez eu la suppression de la taxe d'habitation, l'augmentation de la prime d'activité, tout ça, c'est extraordinaire parce que...
Pour les plus modestes, la taxe d'habitation, elle était déjà supprimée, Dominique, il faut le savoir.
La prime d'activité... ça concerne les plus modestes, me semble-t-il. La baisse
de l'impôt
sur le revenu
du mouvement des gilets jaunes, mais sur la taxe d'habitation,
la baisse de l'impôt sur le revenu
pour les plus modestes depuis toujours.
La baisse de l'impôt sur le revenu pour les moins aisés de ceux qui payent l'impôt sur le revenu, ça touche ça concerne les personnes que vous mentionnez.
Tirer la moitié de la population qui paye la TVA, la CSG, etc.
Dominique.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça concerne aussi quand vous. On ne peut pas dire quand il y a des hausses de prix, c'est épouvantable, et toujours oublier les baisses d'impôts qui ont été faites avant. Mais le sujet essentiel, à mon avis, c'est le sujet et le débat entre le prix et la norme et la règle. Et il me semble, moi, que plus les mois passent, plus les années passent, plus on s'aperçoit que le grand débat sur il faut mettre un prix au carbone est un peu l'excuse pour ne rien faire.
Ah bah, je suis content.
Je suis assez d'accord parce qu'on en parle, et notamment, il faut le dire, dans les milieux économiques. Ouais. Les milieux économiques qui disent fixons un prix au carbone. Ce qui est une idée sur le papier et que c'est très bonne, mais en réalité, on s'aperçoit par exemple que dans l'automobile, de fixer une norme sur la fin du moteur thermique me paraît beaucoup plus efficace que d'attendre d'hypothétiques taxes carbone dont on voit qu'elles posent des tas de difficultés. Le problème, c'est qu'en fait, tous les secteurs d'activité n'en sont pas au même progrès technologique. Dans la voiture, il y a la technologie pour passer. Mais dans l'aviation, il n'y a pas la technologie. Et donc, il faut un prix du carbone.
Le prix et la norme, vous avez une seconde,
oui,
Thomas Piketty.
Je l'ai dit,
On a peut-être un point d'accord.
Et alors, le marché carbone, c'est ce qui est pire, parce que c'est encore plus volatile que le marché du gaz, et ça donne absolument pas les signaux
qu'on
voudrait
donner. Et les Américains nous disent jamais de prix du carbone et de taxe carbone aux frontières.
Merci, messieurs.
Ça, on peut le faire quand même.
Merci, messieurs.
France Inter.